Soyez les bienvenus sur Fréquence Magique. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Fréquence Magique, votre web radio en Haute-Vienne et sur fréquencemagique.com.
Chut, on écoute la télé avec les tourtes limousine. Spécialité élaborée en limousin sans huile de palme, sans conservateur. Pâté de pommes de terre, viande et autres tourtes confit de canard, cèpe ou gésier en vente partout dans vos grandes surfaces.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Fréquence Magique. Des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire eh bien, de votre émission de ce lundi 28 octobre, nous allons consacrer d'ici quelques secondes eh bien, une large partie de cette émission à la sortie du film Mon chien stupide. Ça sort mercredi dans les salles. À cette occasion, Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg vont nous rejoindre et vont nous parler bien évidemment du film Yvan qui a réalisé ce nouveau long métrage. Et puis en deuxième partie, eh bien, nous recevrons tous les enfants de la famille Panayotis, Pasco, Pablo Venzal et Ben Attal seront également avec nous. Nous parlerons également aussi de la série Les Grands qui fait son grand retour pour sa saison finale. Ça sera jeudi sur OCS. À cette occasion, eh bien, nous recevrons notamment Adèle Wim qui joue aussi d'ailleurs dans Mon chien stupide, Hasard du calendrier. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Et puis elle sera accompagnée de Grégoire Montana et de Samy Outalbali. Nous parlerons également de la série Commissariat Central avec Walidia et Vinny Dargo qui seront nos invités. Et enfin, découverte musicale pour terminer l'émission avec Marvin Junot qui viendra nous parler eh bien, de son tout nouvel album. Alors un rendez-vous à ne pas manquer, découverte musicale donc en fin d'émission avec Marvin Junot. Mais on va tout de suite démarrer par notre coup de cœur ciné de cette semaine. Je vous l'ai dit, c'est Mon chien stupide et c'est notre émission spéciale qui démarre maintenant.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on va démarrer notre spécial Mon chien stupide. Eh bien, le film sort mercredi dans les salles. On va consacrer une très très large partie de cette émission au film. On va recevoir dans un instant tous les enfants de cette famille, pas comme les autres, qu'on va découvrir mercredi au cinéma. Ben Attal, Panayotis Pasco et Pablo Venzal. On aura même Adèle Wim qui viendra nous rendre visite tout à l'heure avec toute l'équipe des grands. Mais on va commencer eh bien en beauté avec Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour, qui sont le papa et la maman.
Exactement, qui sont Henri et Cécile.
Famille, voilà.
Bon, Yvan, l'idée du film, comment déjà l'a germé? C'est la première question que j'ai envie de vous poser.
On m'a donné ce livre à lire, on m'a proposé de le faire. Et du coup, je me suis identifié à ce personnage qui en pouvait plus de sa femme et de ses enfants, quoi. Voilà.
Qui est presque dans le regret de les avoir fait, hein.
On peut se demander. Oui, oui, à partir du moment où vraiment il est en colère, enfin où il en a ras le cul, il se dit qu'est-ce que j'ai fait de faire ses enfants, quoi.
Alors sans trahir un secret, vous êtes ensemble aussi dans la vie. Alors quand Yvan vous a parlé, Charlotte, de ce désir de transcrire ce livre au cinéma, quelle a été votre réaction?
J'avais pas lu le livre, moi, donc j'ai découvert le scénario et ça m'a fait marrer. Après j'ai lu le livre et j'ai vu à quel point Yvan était fidèle quand même au ton. Ça lui allait vachement bien, le ton du livre qui est très cynique et voilà, il y a un humour noir assez incisif. C'est ça qui me faisait marrer.
Alors on choisit pas toujours la facilité parce qu'on dit que le plus difficile souvent c'est de tourner avec les animaux ou les enfants. C'est ce qu'on demande souvent à un réalisateur. Qu'est-ce qui est le plus compliqué des deux? Et là, eh bien, vous avez choisi des scènes de famille, on va dire assez chargées, et en plus un gros chien qui pèse le quintal.
Enfin là, les enfants c'est quand même des acteurs. C'est pas vrai. C'est pas des enfants. C'est des grands garçons et des grandes filles. Je les considérais pas du tout comme des enfants. En tout cas, voilà, eux, les enfants, c'est un peu comme les animaux. Vous avez raison, les enfants, on essaye de les manipuler parce qu'on peut pas les diriger, parce qu'ils peuvent pas apprendre un texte, ils peuvent pas venir avec une envie à eux de faire quelque chose. Là, j'avais la chance d'avoir casté, et je voudrais remercier ma directrice de casting, Gigi, de m'avoir trouvé des acteurs super pour jouer cette famille. Mais le chien, c'était plus compliqué. D'abord, ils étaient quatre, on n'avait pas qu'un. et qu'il y en avait un à tour de rôle. Quand il y en avait un qui n'arrivait pas à faire quelque chose, on essayait de faire venir un deuxième qui n'arrivait pas non plus à faire quelque chose, et un troisième, etc., etc. Donc, non, mais voilà, il y a quatre chiens, et on essaie avec ces quatre chiens de finir par obtenir quelque chose. Alors, c'est très marrant, parce que quand ils sont à quatre, comme ça, on a l'impression qu'on louche, quoi, parce qu'ils ont tous la même tronche, la même corpulence, etc. D'ailleurs, il y avait un plan que j'avais tourné avec tous les chiens quand Charlotte fume de l'herbe. J'avais imaginé qu'elle avait une vision, et puis en fin de compte, au montage, j'ai coupé le plan.
Dommage. Quelle a été la scène la plus drôle, Charlotte ? Tourner avec le chien, peut-être ?
Ah non, avec le chien, c'était pas drôle du tout. Parce que justement, comme dit Yvan, il fallait attendre qu'il veuille bien faire ce qu'on avait envie, enfin, ce qu'il devait faire dans la scène. Il sentait abominablement mauvais, mais vraiment, moi, j'adore les chiens. Hein. J'adore les chiens, je pouvais pas le toucher, tellement il puait. Donc, voilà, c'était très compliqué, le chien. Par contre, on a eu plusieurs scènes, mais la scène du joint, c'est une scène pour moi où j'ai eu, en plus, à un moment, c'était à un moment du tournage où pour moi, ça a été un déclic de plaisir et de, on s'est amusé. C'était très, très euphorique.
Ça se sent, en tout cas, qu'il y a eu aussi de l'amusement. Moi, il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire, hein, sans déflorer bien sûr l'histoire, mais il y a eu une scène de repas de famille avec une Lola Marois au top de sa forme. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Vous étiez très nombreux devant l'écran. Et là, est-ce que c'est facile de se retrouver devant et derrière la caméra en même temps, Yvan ?
Bah, surtout, cette scène, c'est... Alors, cette scène, a priori, c'est un peu plus facile parce que je dois filmer tout le monde sans être moi-même à l'écran. Donc, c'est pas forcément... celle-là qui me posait le plus de problèmes de par le fait que j'ai les deux casquettes. En revanche, bizarrement, c'était une des scènes les plus difficiles à tourner. Parce que c'est une scène ingrate, parce qu'il faut filmer tout le monde, il faut faire plein de plans de gens à table, donc qui bougent pas, donc c'est une caméra fixe sur eux. C'est un peu ingrat, et puis il y a des histoires d'axes, etc. Donc en plus, on était 7 ou 8 à table. Donc c'était vraiment compliqué de tourner cette scène, mais j'en suis très heureux parce que, effectivement, et en grande partie grâce à cette Lola, que j'ai découvert et qui est très très drôle et qui est aussi une fille très très attachante dans la vie.
Comment pourrait définir Cécile, Charlotte ?
C'est une femme qui en... On dit souvent que Henri, c'est un mec qui en a ras-le-bol de sa femme et de ses enfants. Elle en peut plus de sa vie. Elle lui en veut de l'avoir enfermée dans cette maison au bord de la mer, au milieu de rien. Elle a mis de côté une carrière peut-être un peu littéraire pour se consacrer à ses enfants. Donc elle est en crise elle aussi. On la chope à un moment où elle en peut plus. Donc elle s'est rabattue sur les antidépresseurs et la boisson et voilà. On est tous en crise à ce moment. Quand arrive le chien, on est tous, chaque enfant, on peut plus de l'autre, quoi.
Oui, on arrive en plein milieu d'une crise familiale et encore pire du père qui est en pleine crise de la cinquantaine. On peut le dire comme ça. Alors comment justement on pourrait définir un peu Henri, Yvan ?
Henri, je pense qu'il est comme ce chien. Il est gros, il est dégueulasse, il est cynique, il est arrogant, il est obsédé, il est tout comme son chien. Et le cœur brisé aussi, comme son chien.
Et quelque part, ils vont bien se trouver, tous les deux.
C'est pour ça qu'il le garde, il reconnaît en lui un acolyte, quoi. Il pue comme Henri. Voilà.
Bon, ça va être savoureux en tout cas. Vous allez pouvoir découvrir cette histoire, ça sera mercredi dans les salles. On va écouter tout de suite la bande-annonce.
Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme, Cécile. 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné 4 enfants que j'aurais joyeusement échangé contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer.
Voilà, mon chien stupide, vous l'avez compris, c'est notre coup de cœur de cette fin octobre et le film à ne pas rater. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, tous les deux, là, 2 jours de la sortie du film, juste avant d'accueillir tout le reste de la famille, Yvan ?
Bah, c'est que les gens aiment ce film, que les gens le partagent avec nous. je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître parce que beaucoup de gens vivent cette histoire, beaucoup de gens ont fondé une famille et que parfois cette sainte famille sur laquelle on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, ben c'est un vrai défouloir de pouvoir lui cracher dessus de manière tendre. C'est-à-dire que souvent cette famille qui nous fait chier, on se rend compte que quand tout le monde disparaît, à quel point on est désespéré sans elle. Donc j'ai l'impression que plein de gens se reconnaîtront. En tout cas, moi j'ai fait ce film pour le partager avec les gens, donc j'espère que les gens le partageront avec nous.
Charlotte ?
Moi aussi, que les gens aient envie d'aller au cinéma le jour de la sortie, la semaine de la sortie, que voilà, que ça fonctionne, on a envie que ça touche les gens. C'est très simple, hein.
Exactement. Et je peux vous dire que vous êtes touché pendant 1h50 avec cette jolie histoire. Mon chien stupide, on va recevoir le reste de la famille dans un tout petit instant. Ben Attal, qui joue votre fils. Alors, la première question que je vais lui poser, Ben, dès qu'il arrive, c'est comment il s'est senti sous la direction de son papa. On va lui demander ça dans un instant. Panayotis Pasco, que vous avez adoré dans l'émission Quotidien, eh bien, il va jouer le rôle de Gaspard. Pablo Venzal, qui joue le rôle de Noé. Et on aura Adelvim également, qui joue votre fille et qui sera avec toute l'équipe de la série Les Grands, qui, elle, fait son lancement jeudi sur OCS. Donc voilà, toute la famille est un peu au cœur de l'actualité cette semaine. Merci beaucoup Yvan et merci Charlotte d'être passée par chez nous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et on fait tout de suite une petite pause, on revient, à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite.
Fréquence magique. On the bed and I close my eyes. Think about those perfect nights in Phoenix. Still feel it. But there's no relief. It's weighing on me. It's taking its toll. It's not letting go. Damned if we do. Damned if we don't. Sometimes I wonder if we do it all along. So what are we gonna do with all this love? About us. Hey, our timing is a mess, but that don't mean that it means less. And if we have to say goodbye cause it's for the best, what are we gonna do with all this love? Yeah, with all this love. Always save it for when it rains in LA. We need it. Oh, maybe we'll wake up one of these days. See, the biggest mistake we ever made was leaving. And I'm thinking, so what are we gonna do with all this love? And in 12 years' time, we smile when we think about us. Our timing is a mess, but that don't mean that it means less. And if we have to say goodbye cause it's for the best, so what are we gonna do with all this love? Yeah, with all this love.
Radio au quotidien, c'est Fréquences Magiques.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre film coup de cœur hein, cette semaine, eh bien c'est Mon chien stupide, le nouveau film d'Yvan Attal. Alors on y retrouve bien sûr au casting Charlotte Gainsbourg, Pascal Arbillot, Sébastien Thierry, Eric Ruff, mais aussi eh bien une pléiade de jeunes acteurs qui sont avec nous. Et là, c'est les trois garçons de la famille que l'on va avoir. Alors, on est plutôt chanceux pour vous mesdames, je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Et nous avons pour commencer Ben Attal qui est justement avec nous, qui joue le rôle de Raphaël. Bonjour Ben.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Panayotis Pasco, que les fans de Quotidien connaissent bien, bien évidemment, et qu'ils aiment d'ailleurs, même s'il a quitté l'émission maintenant 2 ans. Et c'est le rôle de Gaspard. Bonjour Panayotis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Pablo Wenzal qui est avec nous aussi, qui joue le rôle de Noé. Salut Pablo.
Salut, bonjour.
Merci d'être avec nous tous les trois. Première question va être pour Ben. Qu'est-ce que ça fait de jouer sous la direction de son papa? Ça, c'est la première question que j'avais envie de te passer. Est-ce que ça donne une pression supplémentaire ou justement on y va peut-être un petit peu plus détendu?
Non, ça donne, c'est sûr que ça donne une pression supplémentaire. Après, c'est une chance d'être avec quelqu'un qui va quand même agir avec énormément de bienveillance. Je pense que c'est ça le principal. Donc il y a un peu des deux, mais c'est une chance de pouvoir commencer comme ça en tout cas.
Alors surtout qu'on va parler de un petit peu de ta double casquette. On va essayer de savoir un petit peu tout à l'heure où c'est que tu te sens le mieux. Est-ce que c'est derrière des fourneaux ou devant les caméras? Mais on va y revenir dans un instant, Ben, avec toi. Panayotis, alors toi, t'as un parcours, voilà, t'as fait une saison à Quotidien. 2 saisons dans l'émission de Yann Barthès. Et puis du cinéma, parce que on t'a vu dans Adopte un veuf. Avec le grand Arnaud Ducré aussi. Là, tu fais ton arrivée dans le rôle du fils de ce couple joué par Charlotte et Yvan. Alors, comment t'es arrivé dans cette aventure, toi, Panayotis?
Dans cette aventure, j'ai rencontré Yvan il y a quoi? Moi, je suis arrivé tard sur le projet, sur le film. Non, mais je me souviens. Du coup, on a fait. D'ailleurs, j'ai rencontré Ben très tôt. Dès qu'on a fait les essais, on a fait des essais après avec Ben parce que l'idée c'était de pouvoir avoir une famille qui match, qui fonctionne ensemble. Donc Yvan très vite a voulu créer un peu une cohésion et nous a fait nous rencontrer tous un petit peu très rapidement. Du coup j'ai rencontré Ben, puis ça a matché sur le rôle et donc on est parti un peu sur l'aventure. Puis c'était marrant de rejoindre une famille déjà existante qui existe dans la vraie vie. On est venu se greffer, Pablo et moi-même, à cette famille préexistante, donc c'était assez marrant comme expérience.
C'est ça qui est justement assez incroyable, parce que même quand là vous êtes devant nous, on irait vite vous confondre un peu tellement on dirait que j'ai 3 frères moi vraiment autour de moi. Toi Pablo, t'es arrivé comment dans cette aventure aussi?
Alors comment? En passant une audition. D'abord une première audition en compagnie de la directrice de casting, puis une deuxième avec Yvan Attal, sous la direction d'Yvan Attal. Et ensuite on a eu un essai avec la famille rassemblée. Alors Panayotis n'avait pas encore été recruté à ce moment-là. Mais voilà, un petit essai famille où on a un petit peu improvisé, on s'est un peu amusé. Et voilà comment j'y suis arrivé.
Alors l'histoire du film en quelques mots, hein, c'est une crise de la cinquantaine que est en train de vivre le personnage joué par Yvan, où il va essayer, eh bien petit à petit, d'éliminer la gangrène qui est dans la famille, c'est-à-dire ses enfants qu'il regrette amèrement d'avoir mis au monde. Et on va voir qui va être aidé. Et le déclic, ça va être ce chien stupide. Alors vous avez eu quelques scènes avec ce chien qui est absolument incroyable. Ça fait quoi de tourner avec un chien de presque 100 kilos, Ben?
Ouh là là, je vais laisser les autres répondre. Moi, je...
Tu passes ton tour, Joker, Panayotis?
Non, c'était agréable. Nous, on aime beaucoup les chiens. Je crois que tout le monde sur le tournage aime les chiens, sauf une personne, on ne dira pas qui. Mais non, c'était très agréable. Après, c'est des chiens qui sont très très durs à vivre. C'est des chiens qui se fatiguent facilement, qui sont un peu grognons, qui font la gueule assez facilement. Je me souviens qu'il y en a un que j'ai dû sauver dans la piscine, qui était tombé parce qu'il avait mal marché. Il était tombé dans la piscine, j'avais dû aller l'aider à sortir. Donc c'est des chiens un peu pataux, quoi, mais c'était marrant.
Ouais, il y avait 4 chiens au total. En plus, bon, moi j'étais particulièrement concerné parce que toutes les scènes où j'apparais dans le film, dans lesquelles j'apparais, sont en compagnie du chien, puisque Noé est censé avoir une proximité particulière avec l'animal. Et c'était très dur, même techniquement, parce que comme le disait Panayotis, les chiens se fatiguaient très vite, ils devaient vite prendre le relais, et du coup c'était voilà, pour 10 prises, il y en avait à peu près 1 ou 2 qui étaient gardables, parce que le chien ne faisait jamais ce qu'il fallait. Mais en même temps, c'était un très bon exercice de jeu, quoi, de réussir à rester dedans malgré ce compagnon un peu indomptable.
Alors, on va pas oublier évidemment Adèle, hein, qui joue la 4e enfant. Quels sont peut-être les... Parce que j'imagine vous avez eu beaucoup de scènes vraiment à plusieurs, hein, devant la caméra, des scènes de famille. Est-ce que vous avez eu à un moment donné un fou rire ou une scène qui a été difficile à mettre en boîte du fait du nombre où vous êtes devant la caméra, bien évidemment, Ben?
Ouh là 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 là. Je me rappelle que les scènes de famille ont toujours été très marrantes. Moi, je me suis beaucoup amusé. C'était un vrai plaisir. Après, c'est ce que je répète tout le temps parce que je veux les flatter, mais c'est la réalité aussi. C'était quand même une chance de tourner avec 2 jeunes hommes aussi parfaits. Adèle aussi, qui a été fantastique avec moi. C'est vraiment, ça a été un tournage de rêve. Et Oscar aussi, j'allais oublier, je me sens mal d'un coup. Tous, notre beau-frère, ça a été vraiment un tournage sublime avec des gens sublimes. Donc, très très heureux. Je sens que c'était pas du tout ça la question initiale.
Non, c'était le coup du fou rire, mais on va y revenir juste après parce que déjà on va essayer de vous faire imaginer un peu ce que c'est, même si c'est sonore à la radio. Mais on va écouter tout de suite la bande-annonce puisque Mon Chien Stupide, ça sort mercredi dans les salles. Écoutez.
Je garde Stupide.
Pardon ?
C'est son nom et ici sa maison.
C'est incroyable quand même. On passe sa vie avec quelqu'un. On l'aime, on veut le meilleur pour lui. Et puis d'un seul coup c'est fini. T'aurais préféré faire ta vie tout seul ?
Rêve.
Alors, de retour, alors on parlait un petit peu fou rire juste avant la bande-annonce. Alors, qui c'est qui a envie de nous en dire un? Est-ce qu'il y en a eu un plus particulier que les autres? Panayotis, t'es chaud pour nous énumérer un fou rire du plateau? Vas-y.
Je me souviens, avec Ben, on a beaucoup, beaucoup rigolé parce que je crois qu'on évacue le stress comme ça, tous les deux, de se faire marrer. Non, il y avait une scène du repas. Donc, une scène où on était tous. Puis moi, je me souviens, j'étais celui qui était de dos à Yvan, donc c'était plus simple pour moi de... J'étais derrière Yvan, donc c'était simple pour moi de faire des blagues. Et je fais que des blagues de merde, puis on a rigolé, et puis Ben il fait des blagues de merde, et puis à un moment on a eu un fou rire, et puis ça nous fait encore plus rire, parce qu'Yvan ça l'énervait, parce qu'on perdait du temps, parce qu'il y avait le chien, et qu'on perdait du temps d'attention du chien. Et nous ça nous fait encore plus rire, donc c'était horrible. Et ça en devenait comique au point que Yvan il nous parlait un peu comme au chien, il nous disait chut, arrêtez les gars! C'était assez marrant, des fois on se levait et disait ah si! On venait vraiment les chiens, donc c'était assez marrant. C'était très marrant, je crois qu'on a mis genre 15 bonnes minutes à redescendre. Ça a bien fait chier tout le monde, mais pour nous c'était très marrant.
Donc le chien en tout cas vous a amené quand même un peu de piment sur ce tournage. Alors on va découvrir toute cette aventure, bien évidemment. Moi j'ai envie de revenir aussi sur vos projets côté de ce film. Alors Ben, voilà la question maintenant qu'on va te voir dans Mon Chien Stupide, que t'es passé devant la caméra. Alors c'est quoi le mieux, devant la caméra ou devant les fourneaux?
Alors il y a pas de mieux, les deux sont aussi prenant et intéressant et passionnant.
Parce que t'es un passionné de cuisine, hein, pour ceux qui n'ont pas compris à la radio.
Oui, j'ai pas vraiment envie de faire de choix pour l'instant. J'adorerais pouvoir continuer le cinéma. Honnêtement, ça a été une expérience tellement hallucinante que j'ai pas envie que ça s'arrête.
Mais tu sais pas, il faut continuer à faire les deux.
Mais exactement, j'aime bien me dire que c'est possible.
Bon, vos projets, Panayotis, pour toi, la suite?
La suite, bah là, pour le moment, je reprends à la rentrée avec mon spectacle à Paris, qui s'appelle Presque.
On est un peu en province, un peu pour notre rencontre ou pas?
Oui, ça viendra bien sûr, mais c'est vraiment une envie que j'ai de pouvoir aller partager ça en province. Pour le moment, on reste un peu à Paris parce que justement, j'essaie de bien terminer le spectacle pour après pouvoir, une fois qu'il est bien terminé, bien ficelé, bien rodé, aller le proposer à la province. Donc pour l'instant, je reste à Paris avec ce spectacle pendant encore une saison qui est mis en scène par Farid. Et du coup, après, je partirai en province avec. Et puis il y a d'autres petits projets, plus du côté de la réalisation pour ma part. Donc voilà.
Court métrage ou long?
Court métrage pour le moment. Ouais.
Faut commencer. Faut commencer tranquillement. T'as bien raison en tout cas. Et pour toi, Pablo?
Alors bah moi je continue à me former en fait. Voilà, j'essaye de passer comme beaucoup de jeunes acteurs. J'essaye de passer les concours des grandes écoles parisiennes, donc le Conservatoire National, la classe libre du cours Florent. Et donc c'est des concours qui se préparent tout le long de l'année. Voilà, je continue à me former et à passer des castings en espérant qu'il y ait des choses qui se passent et en espérant que ce film ait des retombées positives.
En amener, j'en suis sûr. Alors n'oubliez pas, le film sort mercredi dans les salles. Pablo Venzal, Ben Attal, Panayotis Pasco, Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, Pascal Arbillot, qu'on adore aussi, Adèle Wism. Tout ce beau casting réuni, alors ne l'oubliez pas, c'est la sortie de la semaine que l'on vous conseille bien évidemment au cinéma. On va se quitter avec un petit extrait et merci infiniment les garçons d'être passés nous voir pour nous en parler.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci à vous.
Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme, Cécile, 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné 4 enfants que j'aurais joyeusement échangé contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et dans nos coups de cœur télé cette semaine, eh bien ce soir, ça va être un tout nouvel épisode inédit de Joséphine Ange Gardien, l'esprit d'Halloween à 3 jours de la soirée fatidique et la plus horrifique de l'année. Eh bien Joséphine Ange Gardien va consacrer cet épisode spécial dont je vous propose tout de suite un petit extrait.
Oh, ma valise, c'est super. J'ai peur qu'il la perde pendant le transfert. Violette Delcourt, Manoir de la Roche.
Manoir de la Roche, non mais attends. C'est pas du tout là.
C'est l'orage qui fait bugger mes pouvoirs. On se croirait dans le village de la famille Adams.
Bizarre. Je vois rien.
Attendez, c'est par là que ça se passe. Merci.
Halloween, c'est dans 3 jours, ma grande. Alors tu reviens à ce moment-là? Je te donnerai des bonbons.
Ah non, mais c'est pas du tout pour Halloween. En fait, c'est parce que je cherche le manoir de la Roche.
Des rochers au chocolat? Mais tous pour y gâter, ces gosses, hein. Et pourquoi pas des caramels pendant qu'on y est?
Et notre coup de cœur télé demain sur France 5, c'est le documentaire djihadiste français La part du monstre, enquête sur la vie sous le califat des djihadistes français, de leur famille partie en Syrie, des habitants de Raqqa qui ont vécu aux côtés des djihadistes européens ont accepté de témoigner. Voici pour vous un petit extrait de ce documentaire choc qui sera diffusé donc demain soir à 20h50 sur France 5.
Voici les derniers membres de l'État islamique. Pendant plusieurs mois, 3000 combattants et leurs familles ont été encerclés par les forces kurdes et bombardés par la coalition internationale. Épuisés et affamés, une partie d'entre eux s'est rendue. Ils attendent dans ce désert syrien d'être transférés dans un camp de rétention. Quelques-uns sont français.
Vous regrettez maintenant d'être venu ?
Je regrette, mais d'un autre côté, je ne regrette pas parce que ça m'a appris la vie. Ça m'a appris à me débrouiller, à être une maman.
Cette Française a vécu en Syrie pendant 4 ans. Son mari, un djihadiste français, est mort au combat. Elle ne regrette rien. Pourtant, aujourd'hui, elle aimerait revenir en France.
Et mercredi, c'est un premier rôle pour Olivia Ruiz qui nous présentera le téléfilm État d'urgence, la descente aux enfers d'une flic de la BAC, confrontée à la violence croissante du système et de la rue. Et ça sera suivi eh bien, d'un débat sur la police à bout de souffle présenté par Julien Bugier. Je vous propose tout de suite un petit extrait du téléfilm État d'urgence. Donc, c'est mercredi à 21h05 sur France 2.
Commissaire, c'est au sujet de la manif de demain. C'était pas prévu, je peux vraiment pas.
Ah non, c'est impossible, ça va forcément déborder.
Tenez. J'ai juré à mon fils que je serai avec lui. Je ne peux pas, c'est trop important pour
Écoutez,
moi.
Écoutez, tout le monde doit être sur le pont, il n'y a pas d'exception, d'accord? Et vu les circonstances, vous feriez mieux de faire profil bas.
Mais ça n'a rien à voir.
Ah si.
Et vos indiques pas référencés? Mais vous savez très bien que la plupart refusent.
Bon, écoutez, à la BAC, il y a des règles, hein, vous les observez. C'est pareil pour les ordres.
Nicolas, j'ai besoin de ton aide, là.
Justine, je ne me souviens pas que tu avoir reçu ta cotisation cette année.
La manif de demain. Je peux vraiment pas, j'ai promis à mon fils d'être avec lui, je peux pas le planter encore.
La décision de la tôlière, moi, syndicat ou pas, j'ai pas rien, moi.
Mais c'est complètement dingue. Tu sais combien j'ai de reçus par rattraper?
Bon, on est tous là, hein.
Allez, coup de cœur télé consacré à la série Les Grands qui fait son grand retour sur OCS. Et on a la chance d'avoir 3 comédiens qui sont avec nous pour le grand retour de cette saison 3 qui débutera à 20h40 jeudi sur OCS et dont on aura d'ailleurs dès jeudi la totalité sur le site internet d'OCS. Et ça, c'est important de le dire parce que si vous avez envie de vite voir la suite, vous pourrez. Alors, on a Adèle Wim qui est avec nous. Bonjour Adèle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a Samy Outalbani qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
D'être avec nous, Samy, et puis Grégoire Montana. C'est pas la première fois, Grégoire, je crois que c'est la 2e ou 3e fois que tu passes dans notre émission. C'était pour Peps à l'époque.
Oui, exactement. Bonjour.
N'est-ce pas, mon cher Grégoire? Merci d'être avec nous tous les trois pour parler de cette série. Pour le coup, 3e saison. Alors, ça fait quoi déjà d'arriver pour une 3e saison? Est-ce qu'au début, vous saviez que c'était pour 3 saisons dès le départ? Ou là, pour le coup, ça s'est renouvelé au fur et à mesure? Parce que là, je crois que c'est l'ultime, hein, c'est la dernière.
Ça s'est plutôt renouvelé au fur et à mesure. Et oui, c'est la dernière saison, cette fois.
Samy.
Quand on a commencé la saison 1, on n'avait aucune idée qu'on irait jusqu'à 3 saisons, qu'on irait même, on espérait une deuxième, mais on n'avait aucune idée qu'on irait jusqu'à 3, on n'avait aucune idée surtout que les 3 saisons iraient à la Rochelle chaque année.
Et Adèle?
Oui, bah, on est toujours très fiers de présenter la série Les Grands au Festival de la Rochelle. Très heureux d'avoir été encore sélectionnés et heureux de présenter la fin. Voilà.
C'est une double actualité, Adèle, hein, parce que mercredi, il faut pas non plus rater le film Mon chien stupide. Ça, c'est le rendez-vous, puisque là, on a toute la famille quasiment aujourd'hui dans l'émission. C'est notre coup de cœur ciné aussi, Mon chien stupide, cette semaine. Et donc, tu joues la fille de Yvan Attal et de Charlotte Gainsbourg.
Oui, c'est ça. Très heureuse de faire partie de ce film. C'est vraiment un très beau film, qui est une belle façon de parler du couple, de l'amour, de la relation d'un père et de ses enfants, et qui fait beaucoup réfléchir. Donc, allez le voir.
Exactement. Les grands, on va y revenir, on va présenter un petit peu vos personnages à chacun. On commence par toi Adèle, pour ceux qui n'auraient pas vu les deux premières saisons, comment on peut définir ton personnage ?
MJ, c'est une jeune fille qui est arrivée au collège en troisième, donc elle connaissait personne du collège et elle s'est liée d'amitié avec un groupe d'amis. C'est une fille assez rebelle au fond, en carapace, mais très sensible et qui s'ouvre beaucoup quand elle aime les gens. Voilà.
Pour toi, Samy ?
Pour moi, c'est Ilyes. Au début, en saison 1, c'est le membre un membre discret du groupe, qui découvre son homosexualité en saison 1, qui l'assume auprès de ses amis et qui doit l'assumer auprès de sa mère en saison 2 et qui en saison 3 est pris dans une histoire d'amour qui va lui faire apprendre beaucoup sur lui-même, sur ce qu'il veut pour lui dans la vie et voilà.
Grégoire, pour ceux qui auraient raté les deux premières saisons, pareil pour toi.
Boogie, c'est un personnage assez loufoque, assez comique, qui cache certains petits problèmes qu'il peut avoir de confiance en lui par une très grande extériorité d'humour, de blagues et de mensonges parfois. Beaucoup dans la saison 1, il y a ce truc-là. Il y a une relation amoureuse qui commence dans la saison 2. Je ne vais rien spoiler pour ceux qui voudraient recommencer depuis la saison 1. Donc voilà, il y a une thématique d'une histoire d'amour. Et puis dans la saison 3... Il y a des tiraillements entre la vie scolaire et la vie professionnelle. Voilà.
C'est une belle aventure, mine de rien. Trois saisons, comme ça, on a pu voir vos personnages évoluer au fur et à mesure. Est-ce que là, maintenant, il y a un petit brin de nostalgie quand on sait que c'est la fin, quand il y a eu le clap de fin, par exemple, et vous saviez que là, on n'y retournait pas pour une saison 4, Adèle ?
Oui, c'est toujours... Particulièrement sur ce projet, ça a été très triste de le finir parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble depuis 2015, donc 4 ans maintenant, et on s'est tous plu, que ce soit entre les comédiens et l'équipe technique, on a adoré travailler ensemble, donc c'est toujours triste de se séparer et triste aussi de quitter nos personnages qui ont été le premier truc qui nous a attiré dans ce projet. On a tous adoré nos personnages, et ce qui a fait que voilà, c'était un super tournage, donc très triste, mais en avant pour de nouvelles aventures.
Exactement.
Non, écoutez, je suis assez d'accord, je suis totalement d'accord même avec ce que vient de dire Adèle. C'est toujours émouvant et d'autant plus quand il y a une famille qui se crée comme ça, de savoir que c'est la fin, mais en même temps c'est une nostalgie, mais c'est pas une grande tristesse parce que moi je pense qu'il faut savoir arrêter les projets quand c'est encore le bon moment et qu'avec cette saison 3 on est allé au bout des choses. Et qu'on la termine, je trouve, magnifiquement bien. Et je trouve qu'il aurait pas fallu qu'on rajoute quelque chose par-dessus, parce que ça aurait peut-être pas sali, mais on en aurait peut-être un peu abusé. Et les bonnes choses, il faut pas en abuser.
Il y a plein de projets, on va en parler évidemment, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent pour vous. On le voit pour Adèle au cinéma aujourd'hui, donc on va évoquer vos projets, bien évidemment. Pour toi, Grégoire, c'est pareil. Meilleur souvenir de tournage, et puis en même temps, brin de nostalgie au cap de fin.
Oui, un grand brin de nostalgie. Après, en fait, c'est plus un brin de nostalgie au niveau personnel par rapport à tout ce qui s'est passé sur ce tournage, au niveau des amitiés, etc. Au niveau scénaristique et au niveau de la série, je trouve ça bien qu'elle se termine parce que ces trois saisons, c'est pas beaucoup, donc c'est aussi éphémère que le lycée qui passe très très vite ces années-là. C'est pas les années les plus longues de sa vie. Non, c'est un brin de nostalgie pour tout ce que c'était comme vie ensemble, parce que trois saisons, c'est long, c'est quatre ans, c'est des gens, c'était un projet qu'on a tous aimé, donc on était tous très proches les uns des autres. Dans la vie, souvent, on s'emmerde énormément dans beaucoup de moments, mais sur les grands, on s'est pas emmerdé. On a bien rigolé entre nous, on a bien fait la fête et on s'est bien tapé la cloche. C'était super sympa.
C'est bien dit, ça. Bon, merci d'avoir été avec nous. Les grands, c'est jeudi. C'est à partir de 20h40 sur OCS. L'intégralité des 10 épisodes également sur le site d'OCS. Si vous pouvez pas attendre pour avoir la suite, eh bien, au moins, on le peut. C'est aussi un nouveau mode de consommation qu'il faut utiliser. Il faut pas hésiter. Merci Adèle, merci Samy et merci Grégoire.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On va se quitter avec la bande-annonce, bien évidemment.
Vous avez 4 heures.
C'est fini, j'ai rien écrit.
4 copies doubles, c'est pas mal quand même.
J'ai fait que l'intro là. S'il vous plaît.
T'as couché avec elle, pas vrai?
Est-ce que tu veux devenir junior manager?
Je peux réfléchir.
C'est pas comme si t'étais doué pour les études.
Putain, mais quel enfer.
Qu'est-ce qui te fait peur alors?
T'es en train de devenir un homme, quoi.
Une série OCS Signature. Les grands, l'ultime saison, dès le 31 octobre sur Max. et retrouvez à la demande les saisons précédentes sur OCS.
Et juste avant d'accueillir Walidia et bien sûr Vinnie Dargo pour la série Commissariat Central qui a fait son retour sur W9 tous les dimanches à 17h50, eh bien on va parler de l'art du crime, ça c'est vendredi, c'est sur France 2, avec le deuxième épisode inédit de cette troisième saison, La Malédiction d'Osiris. Deux œuvres supposées maudites de l'Égypte des pharaons occasionnent une succession de meurtres. Enquête avec Clémentine Sellary et Samuel Labarthe qui seront les guests de cet épisode.
Tu pourras me le présenter quand même?
Oh, ça fait peine à moi. Laisse-nous le temps.
Ton père, il en pense quoi?
Il a sûrement déjà embauché un ancien agent du KGB pour en savoir plus sur lui.
Au moins, il va plus te prendre la tête avec ses sous-entendus sur le capitaine Verlet.
Voilà, exactement. Verlet avec sa fliquette et moi, je suis avec mon prof de fac. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quoi?
Rien. Et tu lui en as parlé de ton Sylvain à Verlet?
Non. C'est pour ça que tu glousses?
Mais je glousse pas.
Ah bah si, tu glousses. Est-ce que je glousse, moi, parce que tu profites de ton boulot pour draguer des admiratrices?
Ah non, je drague pas. C'est juste une fille qui me demande de faire la datation d'une antiquité égyptienne qu'elle a trouvée dans une boutique. Regarde, elle m'a envoyé une photo.
Et toi, tu lui donnes direct rendez-vous au musée. Elle t'a pas envoyé une photo d'elle aussi?
Regarde, ça vaut le coup d'y jeter un œil, non?
Allez, zoom dans nos coups de cœur télé sur le lancement de la nouvelle saison de Commissariat Central sur W9. Ce commissariat déjanté où tout peut arriver, avec Vinnie Dargo et Walidia qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux, les garçons.
Bonjour Alain.
Salut mon gars.
Merci d'être avec nous. Moi je suis très heureux de vous retrouver pour ce retour presque inespéré, parce que ça fait un moment qu'on attendait effectivement de voir une suite à la série, et on va vous retrouver dans vos rôles dans cette série complètement déjantée, on peut le dire comme ça, Vinnie.
Bah c'est ça, ouais, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans je crois, Wally, qu'on l'a tourné maintenant la série. Et en effet c'était un peu inespéré, on pensait qu'elle sortirait même pas. Question de créer nos horaires, hein, simplement. On savait pas où nous placer et on est très heureux parce que enfin ça sort. On est très fiers du résultat, on a vraiment hâte de le montrer aux gens, quoi.
Wally.
Il parle tellement bien, qu'est-ce que tu veux que je rajoute?
Bon, on va présenter un petit peu vos personnages à tous les deux. On va parler de Johan pour commencer, mon cher Vinnie.
Ouais. Johan Berthomier, c'est qui? C'est le plus jeune de la brigade. C'est le bout en train de la bande, voilà.
Vince, c'est le mec qui a voulu devenir policier pour se retrouver dans un film, et il se retrouve dans la réalité. Et ce décalage-là, c'est un peu son truc, quoi. C'est Will Smith à Clermont-Ferrand, quoi. C'est un peu l'état d'esprit de.
Il s'y croit fort.
Il s'y croit et il.
Enfin, en première saison, du moins.
Ouais, il y croyait, il y est toujours pas, mais il va y arriver, je pense. Saison 3, Inch'Allah.
Bon, un plaisir de voir enfin saison 2. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une saison 3 viendra plus vite ce coup-là?
Bah, on espère, on verra bien en fonction du retour des gens, de l'audimat, etc. C'est toujours la même chose. Comme on s'aime tous énormément, on espère vraiment qu'on retournera une saison 3, ouais, prochainement.
Quel est votre plus beau souvenir de tournage? Parce qu'il doit y avoir de sacrés moments de fou rire quand même, vu les scènes que nous on voit à la télé.
Avec la fatigue, avec les trucs, quand des fois on se retrouvait à faire des scènes, les dernières, où c'était des fois des scènes de groupe, machin, c'est toujours cool de partager ensemble, de faire un truc où il n'y a pas que les binômes qui existent, il y a aussi le groupe, et c'est un vrai groupe qui essaye de prendre vie dans ce commissariat, et c'est cool.
Vinnie, toi ça a été l'année 2019, ça a été l'année Vinnie Dargo. Je suis désolé, entre Clem, scène de ménage et maintenant Commissariat Central, c'est ton année là.
Je sais pas si c'est mon année, mais ouais, ça commence à démarrer un petit peu, je fais un peu de théâtre aussi à côté, donc ouais, voilà, je travaille, je suis assez content, ouais.
T'as encore le temps, Wally, pour faire de la scène? Moi, j'ai eu la chance de le voir sur scène, ça déménage, ça envoie du lourd, et on passe toujours une bonne heure et demie avec toi sur scène. Est-ce que c'est pareil, là, le one-man show, c'est d'actualité?
Toujours, là j'ai mon nouveau spectacle, on part en tournée jusqu'à avril 2020, tu vois, donc on a le temps de voir venir, mais on essaie de concilier les deux, la fiction et la scène, et tant qu'on peut faire les deux, on s'amuse bien.
Mais c'est ça qui est important, c'est de pouvoir incarner des personnages différents. Ça vous laisse le temps de faire d'autres choses, vos occupations différentes, dans quoi on va vous voir par la suite aussi?
Là pour l'instant je me concentre déjà sur ce qui est déjà ce qui est en cours, qui n'est pas fini, qui est en cours de rodage, etc.
De ménage qui continue aussi.
Et scène de ménage qui continue, mais j'ai des belles choses en préparation pour 2020, et j'espère que ça va porter ses fruits, on verra.
Ce sera l'occasion pour toi de revenir en parler. Wally, tes projets aussi pour finir?
Écoute, moi je développe mes propres projets maintenant. Donc c'est ça qui est un peu intéressant. C'est qu'on va pouvoir proposer des choses qui me ressemblent à 100%. Et ça arrivera courant 2020 avec plein de nouveautés.
Un film? T'as envie de passer à la réal ou pas toi? C'est un peu la mode aujourd'hui de passer à la réalisation de long métrage.
Ouais, complètement. Là je suis en train d'écrire mon film. Donc l'idée c'est d'avoir le total contrôle dessus. Et puis j'ai la chance de pouvoir participer à d'autres projets qui sont pas les miens mais qui me ressemblent bien. Et ça arrive tout de janvier à décembre 2020.
Eh bien écoutez, merci les gars d'être venus en parler avec nous, Commissariat Central. Ça revient sur W9, on va écouter un petit extrait de vous dans vos œuvres et je vous dis à très très vite.
Merci Alain, à bientôt.
Salut Alain.
C'est pas suffisant, on traite pas assez d'affaires, va falloir faire beaucoup mieux.
Mais on peut pas, c'est pas possible.
N'arrête pas une seconde, commissaire.
Oui.
Bien, voulez que je vous dise? Si vous voulez sauver le commissariat, il faut au minimum doubler les chiffres.
Mais on est déjà à bloc, commissaire.
Doubler, c'est impossible.
Pas de problème, commissaire.
Eh ben voilà, touche au boulot.
Merci, Lefebvre.
Mais de rien, commissaire.
Pas de problème, commissaire. De rien, commissaire. T'as craqué ou quoi?
Bah à quoi? C'est dans mes cordes. Cette semaine, j'ai bouclé qu'une affaire. Je peux très bien en boucler deux, hein. C'est pas... Attendez, vous en avez traité combien, vous?
Mais au moins 10, Francky. C'est la moyenne de tout le monde, ici, là.
Enfin, moi, c'est 20, pour être précise.
Oh, bah, vous êtes dans la merde, hein? Oh. Eh bah, allez, au boulot, hein, parce que mine de rien, c'est déjà mercredi, quand même, hein. Allez, hop, hop, hop.
Indiscrétion, scoop.
Scoop,
news, tout de suite, l'infomédia.
Et dans l'infomédia de cette semaine, pour la première fois, le New York Times a dévoilé le top 10 des shows les plus populaires de Netflix entre octobre 2018 et septembre 2019. Jusque-là, ces chiffres étaient tenus secrets par la plateforme numérique. Et bien, sans surprise, c'est la série Stranger Things qui arrive en première place avec 64 millions de vues, rendez-vous compte, dans le monde entier. Et arrive ensuite à la deuxième place The Umbrella Academy avec 45 millions. Adaptation des comics éponymes sur une fratrie de héros et héroïnes avec de l'humour et des super-pouvoirs. En troisième place arrive enfin la série qu'on aime tant, la série européenne La Casa des Papel, avec 44 millions. La série espagnole qui a fait un véritable carton aux quatre coins du globe. La série You arrive en quatrième position avec 40 millions, presque ex-aequo avec Sex Education. Et la surprise de ce classement, c'est la série Elite, malgré le tapage médiatique autour de ce lancement. Eh bien, c'est 20 millions seulement de vues et c'est la 10e place pour cette série. Les groupes audiovisuels français Canal+ et Media One ont annoncé la création d'une filiale commune qui créera des films, des séries et des dessins animés destinés aux téléspectateurs d'Afrique francophone, dont un feuilleton populaire quotidien. Dans un communiqué, les deux groupes expliquent que ces contenus viseront un public potentiel dans les 25 pays du continent africain où Canal+ est actif. Cette nouvelle structure sera gérée par Media One. Ce groupe, créé il y a quelques années en France, est déjà devenu le champion hexagonal de la fiction télévisée. Et il se développe également à l'international. Quant à Canal+, qui intervient dans ce partenariat via sa filiale Canal+ International, le pionnier de la télévision payante en France, est déjà très actif en Afrique, où il compte plusieurs millions d'abonnés et dispose d'un énorme potentiel de croissance. Après son succès sur Netflix, Bodyguard, la série va arriver sur France 2 selon TV Mag. La chaîne publique a en effet fait l'acquisition des droits de la série britannique et c'est le lundi soir en prime time qu'elle devrait être diffusée prochainement. Rappelons que cette série britannique composée de 6 épisodes raconte l'histoire d'un vétéran de guerre désormais chargé de la sécurité de personnalité. Après avoir déjoué un attentat terroriste, il est promu à la protection de la secrétaire d'État à l'intérieur, peut-on lire. Et ça y est, la nouvelle série quotidienne de France O arrive le 11 novembre prochain au PJ Pacifique Sud avec notamment notre ami Antoine Stipe qui était au casting de Cut et bien fait son retour dans cette série tournée en Nouvelle-Calédonie. Nous pourrons la découvrir d'ailleurs en avant-première dès le 4 novembre sur la chaîne Première Calédonie Première.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et nous allons pouvoir profiter donc maintenant d'une petite pause, juste avant de découvrir la dernière partie de notre émission avec une découverte musicale. Chut, on écoute la télé, on va recevoir le chanteur Marvin Juno qui va nous faire découvrir son univers musical. Un rendez-vous à ne pas rater, alors on se retrouve d'ici quelques instants. A tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite. Fréquence Magique.
Bien.
mais c'était faux. Je voulais pas voler trop vite, mollo mollo, j'étais petite et c'était tôt, tellement tôt. On te demande d'imaginer demain, mais demain c'est
télé, le talk show radio. La découverte musicale. Chute, on écoute la télé.
Les découvertes musicales aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé avec Marvin Juno qui nous rejoint. Bonjour Marvin.
Bonjour.
On va partir à la découverte de ton univers musical. On va parler évidemment de ton deuxième album qui s'appelle Sur Mars. Mais Marvin, déjà on va planter un petit peu le décor. Depuis quand tu fais de la musique et à quel moment tu as décidé d'en vivre?
Moi j'ai sorti mon premier album Intérieur Nuit en 2016. Et donc je pourrais dire que c'est le premier jalon de cette espèce d'idée de carrière. Après, si je dois dater la première chanson composée, c'est 2008, quelque chose comme ça. À l'époque, moi j'ai un cursus d'études de mise en scène de cinéma. Par la suite, j'ai été décorateur dans le cinéma pendant 10 ans. Et en parallèle, je faisais de la photo et de la musique. Et la première composition, on pourrait la dater au Carbone 14 en 2008.
Et c'est toi qui composes, qui écris toutes tes chansons, où tu te fais entourer, tu te fais aider, où tu collabores avec d'autres?
En fait, je suis toujours à la base de la composition. Et après, je peaufine ça avec la pianiste qui m'accompagne sur scène et un peu partout, qui s'appelle Agnès Imbeau. Et en fait, on a co-composé la majeure partie des titres de Sur Mars ensemble. Mais moi, je pose toujours une première base, après qu'elle vient embellir. Et sur l'écriture, par contre, c'est un rapport très solitaire. Et je délègue pas du tout et je collabore pas du tout. C'est mon écriture. Mais voilà, ouais, on peut dire que je suis auteur-compositeur.
C'est quoi pour toi ce qui t'a vraiment donné envie de faire de la musique? C'est l'écriture, c'est le rapport sur scène, le partage sur scène avec les gens. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ce domaine-là?
Alors aujourd'hui, sans hésitation, la scène. Mais à l'origine, c'était vraiment pour écrire. Si j'ai commencé à écrire des chansons et à composer de la musique, c'était pour ce rapport à la langue française qui me fascine assez. Cette langue est élastique, on peut vraiment la triturer, parfois même la maltraiter. Et elle me fascine assez. J'ai jamais réfléchi ou pensé à un moment donné pouvoir chanter en anglais. Et donc voilà, je pars de l'écriture et aujourd'hui mon kiff ultime, c'est la scène.
Tu trouves l'inspiration à l'écriture? Comment? À quel moment? Dans des moments de vie privés ou plutôt vraiment en te concentrant sur des moments particuliers?
C'est assez étonnant, mais ça évolue avec le temps. Mais là, c'est des phases. En fait, je parle parfois d'œil photographique où je me balade dans les rues et je vais avoir une obsession de photos que je prends mentalement, quoi. Et ça peut durer quelques jours. Et je pense en termes d'image. Bah, c'est pareil avec les mots. En fait, pendant 4-5 jours, je vais me balader dans les rues avec mon téléphone et je vais faire plein d'associations d'idées, d'espèces de jeux de mots, de comment on pourrait triturer certains mots. Et donc, c'est plutôt par phase. Voilà. Mais j'ai écrit la quasi-totalité du deuxième album en baladant en Paris la nuit et avec mon téléphone à prendre des notes. Et après, il y a tout un travail de réorganisation. J'ai vu qu'il y avait trois thématiques qu'on pouvait déceler de ce magma un peu informe. Et puis après, il y a eu tout un travail de... Je passe un temps fou à écrire, en fait.
Bon, on va écouter un petit extrait dans un instant de cet album Sur Mars. Et on va parler juste après des premières parties impressionnantes que tu as pu faire, quand même. Est-ce que tu t'es retrouvé en première partie des Vieilles Canailles, de Michel Polnareff. Enfin, c'est juste... géantissime et des salles incroyables. On va y revenir là-dessus dans quelques instants. Mais déjà, premier extrait, lequel tu as envie qu'on écoute et pourquoi surtout ?
Ah.
Pourquoi celui-là ?
Bah, peut-être le titre éponyme, peut-être Sur Mars. Parce que je crois qu'il plante le décor. Mais cet album, il est particulier. J'ai traversé trois années particulières et j'ai prétexté un voyage sur Mars pour essayer de retranscrire l'indicible, en fait. Et j'ai eu la pression parfois d'être sur une autre planète en solitaire pendant quelques temps. Et Sur Mars, c'est vraiment la parabole. Et donc, c'est le titre de l'album et c'est le titre de la chanson que vous allez écouter.
On écoute tout de suite. Marvin Juno.
Je suis parti sur Mars, fin février. Volontaire un peu lâche, je pensais me sauver. Le livre blanc en poche et des vêtements froissés. Je voulais que tu saches que tout va me manquer. Que tout va me manquer. Que tout va me manquer. Tout va me manquer. J'ai tout laissé sur place pour me réinventer. J'ai vu l'amour en face, un rien m'a fait vriller. Désolé pour la casse, je n'ai rien inventé. On est de cette race qui aime tout bousiller. Qui aime tout bousiller.
Sur Mars, c'est donc l'extrait éponyme de l'album de Marvin Juno qu'on vous fait découvrir aujourd'hui dans Chute en écoute la télé. Alors Marvin, on discutait là juste à l'instant des premières parties incroyables. Comment tu t'es retrouvé sur la scène en compagnie des Vieilles Canailles ou encore de Michel Polnareff? Ça, c'est juste hallucinant, t'as dû faire des salles de 15 000, 17 000 spectateurs, je crois notamment à l'Arena de Paris. Hein.
Oui, on avait eu cette chance-là d'ouvrir pour les Vieilles Canailles l'Accor Arena de Paris, l'ancien Bercy. Et puis, on avait ouvert pour Michel Polnareff aux Arènes de Nîmes. Ces deux salles, évidemment, qu'à mon nom, je n'aurais pas pu envisager une seule seconde. Et voilà, ça a été des expériences... je pense qu'on emmagasine de l'expérience aussi. C'est tellement énorme, tellement incongru, et on se présente à tellement de gens en même temps, qu'il y a de l'enjeu, et puis en même temps, c'est presque absurde d'être là, quoi. J'ai pas rencontré personnellement ces artistes-là, on avait le même tourneur. C'est comme ça que parfois ça se passe. Donc, à contrario, la série de premières parties que j'ai pu faire sur le retour de Zazie...
T'as fait 11 dates, je crois, avec elle.
Ouais, quelque chose comme ça, et là, c'est une vraie rencontre. C'est-à-dire que...
T'as donné des conseils en tant que coach de The Voice, en plus?
Non, sincèrement, en plus, on a une relation quasi amicale, et donc elle m'a laissé un peu être moi-même, mais c'était pour moi, j'ai appris une grosse partie de mon métier de musicien de live avec elle, parce que on enchaînait les dates, parfois dans la même salle, plusieurs soirs de suite, et ça, c'est plutôt inédit pour un artiste émergent. Ça permet de se roder, de comprendre les erreurs de la veille et de pouvoir les rectifier dans la même configuration. C'est un cadeau, cette série de premières parties de Zazie, ça reste le truc central, même si... les autres sont belles en termes de renommée et de symboles, mais ma marraine, c'est Zazie, oui, sur ça.
Tu aimerais un duo, par exemple, avec elle sur un prochain album? Tu aimerais une collaboration, justement?
Ouais, on l'a envisagé un temps, mais on était sur des emplois du temps un peu compliqués, un peu différents. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, parce que pour moi, elle incarne ces rares personnes en France qui ont réussi à faire de la pop.
Un univers qui te parle en plus.
Ça me parle, bien sûr. Et puis son écriture aussi, qui est très ludique. Elle aussi triture cette langue et la magnifie depuis tellement de temps maintenant. Puis je retiens la très très belle rencontre humaine. Parce qu'il y a quelque chose de très pyramidal en plus sur sa tournée. C'est-à-dire qu'elle donne le ton, mais après tout le monde est adorable. Des musiciens, techniciens. Et on a un peu découvert une famille.
Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Marvin ?
De parvenir à pondre un troisième album, histoire de revenir assez rapidement pour tenter de m'inscrire. En fait, je sens que c'est un processus qui est pas c'est pas une trajectoire fulgurante et qu'on est plus dans cet air-là de prendre le temps et d'avoir le temps de s'installer, comme c'était le cas encore il y a 10-15 ans. Et je vais essayer de ne pas être un sopalin qu'on jette au bout de 2 ans.
C'est difficile, hein. Le métier de la musique, on rencontre des parcours. C'est pour ça que je voulais savoir un peu ton parcours en début d'émission, parce que c'est important de comprendre et de faire comprendre à nos auditeurs les difficultés que peuvent rencontrer certains artistes à émerger et surtout à vivre de leur musique.
Bah, c'est très très aléatoire, c'est fragile. Bah, c'est un milieu comme plein d'autres où il n'y a pas de méritocratie, pas de justice. Voilà, mais après, il ne faut pas se victimiser et être heureux des succès des autres et puis travailler dans son coin pour essayer de percer un peu plus. Mais moi, j'aime pas les. Je vais passer pour un débile de dire ce genre de choses, mais je ne souhaite pas les trajectoires fulgurantes. Je trouve que c'est des choses à te rendre complètement fou et ça va tellement haut, tellement loin que je pense.
Et tellement vite
que déjà ça peut détruire l'artiste et puis ça peut lasser le public. Voilà. Et moi j'ai envie de m'inscrire dans le temps, en prenant mon temps. Je suis quelqu'un d'assez long en fait, je crois.
Écoute, on va découvrir en tout cas un deuxième extrait. L'album s'appelle Sur Mars. Il est toujours disponible dans tous les bons espaces culturels. Alors lequel maintenant t'as envie de nous faire découvrir?
Parce que c'est très radiophonique, le silence.
Le silence, eh bien on va le découvrir dès maintenant. Marvin Junot, merci d'avoir été avec nous. Et puis on te retrouve évidemment aussi, t'as une page Facebook officielle, Marvin Junot, J-O-U-N-O. Merci à toi.
Merci beaucoup.
J'atteindrai que tu baisses ta putain de garde plaquée. Lors d'une nuit à l'étage, je viendrai te voir quand tu dors. Même si c'est ainsi que cesse la plupart des films que j'adore. Ces pouces que tu me laisses font en sorte que j'y crois encore. Dis-moi, passé à te taire, on avait rendez-vous, qu'as-tu de mieux à faire? Oui, je ferai tout pour revenir en arrière. Dis-moi, tout est son contraire. Et tant pis si t'avoues et fous ma vie en l'air. Je vis sans garde-fou et je m'en fous d'hier. Dis-moi, tout est son contraire. Et tant pis si t'avoues et fous ma vie en l'air. Je vis sans garde-fou et je m'en fous. Et je m'en fous d'hier.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et on va donc se retrouver lundi prochain avec une spéciale du film Place des Victoires. Le film sortira le 6 novembre au cinéma. Et bien à cette occasion, on recevra Johan Guillouswijk, le réalisateur, qui sera accompagné de Piti Puya et de Guillaume de Tonquédec, qui fera son retour dans Chute, on écoute la télé. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et bien évidemment, nous reparlerons également de la série Les Grands qui continuera également la semaine prochaine sur OCS. Et puis bien sûr aussi le Tour de France qui a dévoilé bien sa carte. Il passera dans notre région du 6 au 8 juillet en Charente-Maritime notamment. Et à cette occasion, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et Dominique Bussereau, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime, seront avec nous pour évoquer les festivités et le tracé de cette nouvelle édition.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier vos applications sur iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain sur Fréquence Magique à 7h30, 12h30 et 17h30 pour les quotidiennes et la grande hebdo de Chute, on écoute la télé. C'est lundi prochain dès 18h. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à demain.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec les tourtes Limousine, spécialité élaborée en Limousin sans huile de palme, sans conservateur, pâté de pommes de terre, viande et autres tourtes confit de canard, cèpe ou gésier, en vente partout dans vos grandes surfaces.